Bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack. Nous aimons la chanson française. Bistånd klack, mais nous détestons les fadaises. Qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se pèle l'apôtre. Cette phrase est notre devise. Notre devise, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack. D'accord pour les chanteurs, poètes. Bistånd klack, né dans le Rhône ou à Perpète. Suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre. Voilà notre philosophie. Philosophie, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack.
Roger Pestouri, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le troisième entretien de notre série consacrée à votre vie et votre action au fil de celle-ci. Ce troisième entretien sera consacré au thème du Parti communiste, de votre action, adhésion au Parti communiste de 1937 jusqu'à aujourd'hui. Je vous laisse donc la parole et nous converserons au fil de vos propos.
Oui, c'est un thème que j'ai situé dans mon parcours parce que ça représente une grande part de mon activité, de mon militantisme. Le Parti communiste, pour moi, était l'emblème de la jeunesse, celui qui a cristallisé les valeurs pour lesquelles je combattais. Et il me semble qu'il était tout à fait normal et naturel que, à partir du moment où j'étais aux jeunesses communistes en 1937, mon adhésion au Parti communiste intervienne en 1938. Et c'est à partir de là, bien sûr, que chaque année, on m'a renouvelé ma carte du parti et que, en cette année, à 86 ans, je dois avoir 65 ou 66 cartes du Parti communiste français. J'ai beaucoup de souvenirs qui reviennent à ma mémoire parce que, à travers le Parti communiste, ce sont des camarades, ce sont des visages. Ce sont ceux qui, au départ, ont beaucoup influencé mes choix et mes décisions. Et à Gignac, ma commune natale, lorsque j'ai adhéré au Parti communiste, c'était pas quelque chose qui venait comme par hasard. C'était une préparation préalable qui m'avait conduit à ce choix et à cette décision. J'avais déjà lu le Capital de Karl Marx. Je me souviens toujours, il y avait 6 ou 7 volumes. Les nuits que j'ai passées à affronter ces thèmes économiques auxquels j'étais assez résistant. Mais Marx et Engels ont beaucoup pesé sur mes choix philosophiques lorsque j'ai adhéré au Parti communiste français. Et puis il y avait bien sûr ce qu'on appelait le militantisme, l'atmosphère, l'environnement. Et à Gignac, là-bas, il y avait quelques camarades, ils étaient 7-8, qui étaient communistes, qui étaient au Parti communiste, et qui s'entretenaient avec moi presque quotidiennement du parti. Et c'est ces camarades qui ont pesé sur moi dans ma décision. Et ils bataillaient, et en particulier Labruni, je me souviens que Labruni, c'est lui qui recevait l'Humanité, il me donnait l'Humanité tous les jours, et avec lui, il y avait des discussions très profondes, très, très importantes. Et c'est l'Humanité également qui m'a appris, qui m'a décidé à mon adhésion au parti. Le journal L'Humanité, je lisais ce journal depuis 1937, depuis mon adhésion aux jeunesses communistes, et je découpais les articles, je collectionnais ces articles qui étaient installés ensuite sur le foin dans la grange. Il y avait peut-être 200, 300 articles qui étaient dispersés les uns à côté des autres, et c'était un peu mon coin de rêve là-bas, où j'allais méditer, où j'allais relire ces articles. Il y avait en particulier les articles de Vaillant Couturier, de Gabriel Péri, de Lucien Sempex, de Marcel Cachin, de Maurice Torres et d'autres. Et alors tout cela a fait que j'ai atteint ce potentiel, si l'on peut s'expliquer ainsi, ce potentiel théorique qui m'a conduit, à partir du repère des valeurs que j'ai considérées comme essentielles pour la poursuite de mon parcours, et c'est ce qui m'a conduit au Parti communiste français.
L'humain sur tous les chemins, l'humain dans toutes les mains. Bonjour, bonsoir, bon matin. Il y a le blé et le vin, il y a la laine et le lin, et l'humain dans toutes les mains, sur tous les chemins. L'humain, un journal dans un matin de France, à Marseille, à Brest ou à Nancy, un journal sous les toits de Paris, une fille, un gars, une romance, l'humain sur tous les chemins, l'humain dans toutes les mains. Bonjour, bonsoir, bon matin. Il y a le blé et le vin, il y a la laine et le lin, et l'humain dans toutes les mains, sur tous les chemins. L'humain, un vélo dans le jour qui va naître.
Et la cellule communiste de Gignac est pour moi très importante, parce que à partir du moment où j'étais au Parti communiste, je devenais un personnage connu au niveau du département. J'ai jamais été au comité fédéral du Lot du Parti communiste, mais j'ai participé à la dernière conférence fédérale. Je m'en rappelle avec beaucoup de douleur, parce que cette conférence m'avait beaucoup impressionné. Il y avait tous les délégués du département et le camarade de la direction nationale qui était venu, c'était Léon Frotte. Et Léon Frotte était conseiller municipal de Paris, et quelques années après, il a été fusillé. Il a été fusillé par les Allemands, et ça m'avait beaucoup marqué. Ce personnage national qui venait et qui est mort la tête haute dans ces conditions, et que j'avais connu, que j'avais croisé, et avec lequel j'avais serré la main, et c'était quelque chose qui représentait beaucoup pour moi, parce que le temps de ces années du Front populaire et tout, le temps de la résistance qui est venu, tout ce sang qui a été versé, ça se cristallisait à travers Léon Frotte. Et je pense toujours à Léon Frotte, ce conseiller municipal de Paris qui est venu là-bas dans le Lot, qui a fait un discours formidable, qui m'avait enthousiasmé par les propos qu'il tenait et tout, et qui ensuite a disparu dans les conditions que je viens d'exprimer. Voilà un peu ce que me rappelle cette cellule de Gignac, cette appartenance au parti dans cette petite bourgade paysanne. J'ai découvert là ce que c'était la conscience de classe des paysans, parce que nous avions quelques paysans à la cellule. Il y avait des discussions très poussées, parce que le Parti communiste faisait un gros effort en faveur des agriculteurs. Il y avait Renaud Jean, qui était une sommité du monde paysan, qui était d'ailleurs à la commission d'agriculture à l'Assemblée nationale, qui était député communiste du Lot-et-Garonne. Il y avait Val Descrochet, tous ces gens qui m'avaient que j'avais croisés et qui m'avaient beaucoup marqué dans le prolongement de mon activité. Voilà un peu les souvenirs que je garde de cette adhésion au Parti communiste.
Et pourquoi la dernière réunion dans le Lot, c'est juste avant l'interdiction du parti, c'est ça?
Oui, c'était en 1938. L'interdiction du parti est venue en 1939, et le camarade a été fusillé en 1941. Ce qui veut dire qu'il y avait comme un enchaînement. C'est peut-être ce qui explique pourquoi ces souvenirs sont si présents à ma mémoire, par l'enchaînement des faits et de l'histoire qui s'est déroulée sous mes yeux, avec, disons, indirectement, seulement ma participation à ces événements. Voilà, puis il y a eu bien sûr la résistance, je ne l'évoquerai pas puisque je parlerai de cela plus longuement. La seule chose que je voudrais dire concernant la résistance, c'est que quand l'occupation du pays est intervenue, que nous sommes entrés, comme on dit, en résistance, ma première action, ça a été de reconstruire le Parti communiste français dans le Lot, dans la Corrèze, dans d'autres départements. Et on m'avait mis, à ce moment-là, on m'avait donné un titre, on nous appelait des intercadres. Nous étions des responsables chargés de sélectionner les cadres qui allaient prendre la direction du Parti communiste clandestin. Donc j'ai assumé cette tâche d'intercadre pendant plusieurs mois, jusqu'au moment où nous avons mis sur place ces directions du parti dans ces départements, avec bien sûr ces va-et-vient chez ses camarades. Et c'était très très délicat parce que il fallait aller frapper à la porte des copains et des fois c'était bon, des fois c'était moins bon et des fois c'était dangereux. Mais enfin, voilà, c'est des épisodes qui s'enchaînent, disons, pour arriver jusqu'à la libération où à la libération, je me suis trouvé, j'y reviendrai à Paris quelque temps, mais j'ai été rappelé parce que j'étais rappelé dans l'armée. Et quand je suis rentré à Lyon, j'ai adhéré à la cellule communiste de la Guillotière. J'étais marié depuis le 28 février 1944. Ma femme habitait 50 rue de la Thibaudière. J'étais là-bas chez mes beaux-parents en attendant que nous venions nous installer ici à Bron. Et j'ai adhéré à la cellule du parti de la Guillotière. Et là, il y a eu ce lien, parce que mon milieu, c'était le milieu paysan. Et là, à la Guillotière, c'était le milieu ouvrier. Puis c'était des camarades d'une simplicité, d'une modestie et d'une honnêteté, et quelque chose d'impressionnant et quelque chose d'émouvant. Je me souviens toujours de plusieurs camarades qui sont rentrés en rapport avec moi de façon peut-être plus intimiste, parce qu'ils sentaient que j'étais pas très à l'aise, je venais de me marier, j'étais dans un secteur où je me sentais un peu pas chez moi, et ils ont été à mes côtés autour de moi, et je pense que ce qui a été l'événement le plus marquant, c'est lorsque la cellule, nous avons accueilli en juin 1945 les déportés du Parti communiste qui ont repris leur carte, qui sont revenus, ces déportés qu'on a découverts dans les conditions où ils sont revenus. Et c'était très émouvant parce que les déportés, lorsqu'ils sont rentrés en France, ont été plus ou moins bien accueillis. Ils les ont réceptionnés à l'hôtel Laetitia, je crois, à Paris, mais il n'y a pas eu d'accueil, il n'y a pas eu de fleurs. C'était d'une froideur glaçante. Eux-mêmes ne parlaient pas. Ils ont attendu des années pour parler. Et là, nous avons trouvé ce terrain de cordialité, de fraternité, d'amour, je dirais, pour accueillir ces camarades qui avaient tant souffert, qui avaient tant pâti des difficultés et des événements que nous venions de traverser. Voilà ce que ça me rappelle, ce temps de la cellule, de la Guillotière. Là, c'est pareil, nous faisions des assemblées, je prenais souvent la parole, il y avait de grandes discussions, ça discutait beaucoup à la libération, parce que il y avait des adhésions, on n'arrivait pas à enregistrer les adhésions, on est passé de quelques milliers à 300, 400, 500 000, puis il y avait toutes les catégories, il y avait, disons, l'identité du parti qui se transformait à travers cela, et c'était souvent très difficile, mais cet apprentissage, je l'ai vécu là-bas à la Guillotière. Et puis ensuite, il y a eu un prolongement, parce que lorsque je suis rentré à la Sécurité sociale, en 1946, le 31 mars 1946, là, nous avons constitué une cellule d'entreprise. Et cette cellule d'entreprise s'est trouvée rattachée à la section de la Guillotière. Ça veut dire que j'ai retrouvé mes camarades, et ça a été quelque chose de particulièrement impressionnant, parce que Nous avions beaucoup d'ambition et c'est les camarades de la Guillotière qui nous ont facilité la tâche pour créer un journal d'entreprise, un journal de la cellule d'entreprise. Et je me rappelle, c'est mon camarade Alera qui était le directeur de la Caisse de Sécurité Sociale de la rue Bonnefoy, Alera qui avait adhéré ensuite au Parti Communiste, qui même sans être au Parti Communiste, rédigeait des textes pour le journal de la cellule communiste. Voilà les souvenirs que ça me rappelle. Avant que je ne vienne ici à Bron, nous avions acheté la maison où nous sommes en ce moment. Non, nous étions plutôt locataires. J'ai acheté ensuite et là, je me suis installé, je ne connaissais pas les camarades, je ne savais pas ce qui se passait dans cette ville. Il y avait 13 000 habitants à ce moment. Là, il y en a 30, 40 000 maintenant. Ça a beaucoup évolué. C'était surtout des gens de chez Berlier. Et toutes ces maisons ici, ces constructions de la loi Loucheur, de ces travailleurs de chez Berlier qui faisaient construire sur des terrains non viabilisés, il n'y avait pas l'eau, l'égout, il n'y avait rien, mais on avait sa maison. Et alors je me suis trouvé ici en 1946, et là, j'ai adhéré
à... C'était quoi la loi Loucheur ?
La loi Loucheur, c'était une loi qui permettait de... qui facilitait ses démarches pour construire sa maison personnelle et la construire dans des conditions tout à fait abordable, et en particulier de construire sur des terrains qui n'étaient pas viabilisés, comme c'était le cas ici. Parce qu'il y a des règles d'urbanisme qui font qu'il faut que la viabilité soit assurée lorsque vous faites construire. Et à ce moment-là, il y a eu un décalage, il y a eu... c'était avant-guerre, ces choses-là. C'était en 1935, je crois que la maison a été construite en 1935, mais quand je suis arrivé ici, les propriétaires qui étaient là s'étaient installés à la faveur de cette loi Loucheur qui a été votée à ce moment-là. Voilà, alors j'arrive ici. Évidemment, je prends contact avec les camarades de la section, bien sûr. Et puis notre travail a été de constituer la cellule de quartier. La cellule, c'était très, très, très départagé, Bron, à ce moment-là. Il y avait 13 ou 14 cellules. Il y avait 300 ou 400 adhérents, ici à Bron, au Parti communiste. Alors, tout était organisé par cellule. À la base, c'était la cellule. Et alors, mon travail était de constituer la cellule, de contacter les camarades. Ça a été un travail formidable parce qu'il y avait une telle sympathie envers le Parti communiste à ce moment-là. Il y avait, c'était un terrain où on se sentait revivre, où on se sentait puissant, où on se sentait dans l'expression des valeurs qui étaient les nôtres, parce que dans cette relation avec ces gens, c'était des familles surtout. Il y avait la discussion politique, et puis il y avait le débat très large, très ouvert, et chacun avait ses soucis d'ordre professionnel, ses soucis d'ordre familial et ses soucis d'ordre de la cité elle-même, comment gérer la cité. Et le parti venait là comme forme, comme un organisme qui allait structurer toutes ces sensibilités des uns et des autres. Ça a été pour moi quelque chose d'extrêmement enrichissant parce que j'ai fait le porte-à-porte. Nous avions le journal, j'étais diffuseur, j'ai été membre des CDH, qu'on appelait Comité de défense de l'humanité. J'en étais même responsable à Bron pendant toute une période. Mais ces CDH, je recevais les journaux ici, ou plutôt nous allions les chercher au siège, là-bas, route nationale. Je diffusais, je crois, 150 humanités dans ce secteur. France Nouvelle, le journal des jeunes, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Et je faisais, dans tout ce secteur, toutes ces rues qui formaient la cellule, le dimanche, le samedi et le dimanche, je passais ma matinée du samedi et du dimanche à faire ce distributeur de journaux et avoir ces entretiens.
Pour y répondre, laissez-les. pavés. Ils avaient tous pris une tâche, celle de défendre l'humanité. Et de Montmartre à Barbès, ils s'en allaient cœur léger. Bonne gens, la voix de Jaurès vous dit, lisez l'humanité. Bonne gens, la voix de Jaurès vous dit, lisez l'humanité.
Je passais, je crois, 60 humanités, ça veut dire 60 ménages que je fréquentais, et chaque fois c'était l'accueil, c'était la discussion, on trinquait des fois, on buvait un petit coup, c'était, on créait les conditions pour une grande famille, la grande famille des communistes. À ce moment-là, la fraternité tenait grande place. La grande famille des communistes, c'était un terme que nous employions et que nous recherchions. Et ici, à Bron, j'ai trouvé ce creuset, j'ai trouvé cette manière d'être qui m'a permis de découvrir chez les autres les valeurs dont j'étais porteur, mais de m'enrichir des autres, souvent dans leur simplicité, dans leur modestie. Il y avait de tout, là. Il y avait des jeunes, il y avait des vieux, il y avait des mémés qui, rue Plantier, là-bas, j'allais chez un ménage, ils avaient 85 ans l'un et l'autre, et je passais une heure avec eux à discuter de politique et tout, et ils prenaient les journaux, ils prenaient tous mes journaux, même eux qui étaient vieux, ils prenaient les journaux des jeunes. Vous voyez, c'était quelque chose de très important pour moi. Ça a beaucoup pesé sur le moral qui était le mien, parce que c'était dur avec ma femme. Nous nous sommes installés ici. Et on a beaucoup souffert de la faim, et du froid ici, dans cette maison, parce que nous n'avions pas les moyens à ce moment-là, et c'était très très difficile. Et heureusement qu'il y avait cet environnement pour nous permettre de tenir le coup, parce que je pense que nous n'aurions pas résisté. D'ailleurs, les personnes qui m'ont vendu la maison, les propriétaires, ont quitté cette maison parce qu'il faisait trop froid. On n'avait pas de moyens de chauffage à ce moment-là, et c'était vraiment glacial. Et alors, avec les difficultés financières, et c'est ma fille qui a payé tout cela, parce que ma fille a été toujours fragilisée dans sa santé, parce que il y avait pas assez de nourriture, il y avait des difficultés, il y avait des maladies fréquentes, conséquences de cela, des scolioses, et on a payé tout ça, on a payé ces lendemains de la guerre. Ces lendemains de la guerre ont été très difficiles pour toutes les catégories ouvrières, disons, ceux qui venaient du bois, ceux qui n'avaient pas encore les moyens d'assumer leur propre survie. Et là, le parti a joué un grand rôle là-dessus, parce que on était tous, disons, au même rang, et il y avait une confrontation, et il y avait aussi de se battre pour que on échappe à cette situation de misère qui était la nôtre. Voilà un peu ce que me rappelle cette cellule Majorini. Nous avions le journal de cellule. Dans cette cellule, j'en étais le rédacteur en chef. On faisait nos petits journaux tous les mois, René Hauté. C'était tout à fait modeste et tout, mais je suis toujours attaché, et j'ai toujours en mémoire ces liens profonds qui s'étaient créés dans toutes les rues, avec ces dizaines et ces dizaines de familles qui étaient au Parti communiste, ou sympathisantes. Quand on allait dans la famille, l'un était au parti, la femme, les enfants, mais c'était tout sympathisant. On était un peu chez soi. On était un peu chez soi, là-dedans. Et ça m'a beaucoup aidé à m'engager dans ces responsabilités politiques qui étaient les miennes. Parce que je me souviens toujours de la première réunion publique à Bron. C'était une réunion organisée. Et j'étais à ce moment-là à la section, j'étais au comité de section. Et la première réunion, bon, je m'expliquais assez bien. Et mon premier discours, il y en a un parmi les auditeurs qui a dit « Qu'est-ce qu'il vient faire cet étranger chez nous ?» parce que j'avais mon accent du Midi. Ça m'avait beaucoup fait mal, ça, parce que me sentir traité d'étranger, moi qui sortais de la résistance, qui avait vécu ces moments difficiles, avec l'image de tous mes copains qui avaient laissé leur vie, et que un personnage aille me provoquer, dire que j'étais un étranger, qu'est-ce que je venais faire ici à Bron. Alors il y avait besoin de cela, il y avait besoin de cette fraternité, de cette chaleur des camarades. Et ici à Bron, j'ai trouvé cette grande famille que je recherchais, cette affection que je recherchais. Et ça m'a aidé à surmonter mes difficultés familiales, ces problèmes économiques que nous avions et tous les soucis qui découlaient de cette situation. Voilà un petit peu. Donc j'ai eu cette cellule pendant des dizaines d'années. J'ai dirigé cette cellule pendant 30 ou 40 ans, je ne sais pas combien, tout le temps depuis la libération. J'étais toujours le secrétaire de la cellule. Même durant mes fonctions d'élu, j'ai toujours gardé la direction de ma cellule pour avoir le contact avec les camarades.
Ils sont de notre temps, conçus sous les outrages, nés dans le mauvais temps. Ils en ont le courage, arrachés à la laine, foyer de la couche, ils travaillent sans haine et le cœur sur la bouche à l'immense chantier du grand rêve ouvrier de l'international. Les communistes du soleil qui se lève au soleil qui se couche. De relève en relève, de supplice en cartouche, marchant de rêve en pire, et de pire en meilleur, ils ont gravé leur rire sur les murs de la peur, marchant le poing levé, sous les yeux orduriers des marchands d'ouvriers, les communistes. Les communistes, ils sont partis d'octobre en voyage d'amour, plus recouverts d'opprobre que de fleurs en retour. Ils ont donné leur sang et la fleur de leur âge pour faire à nos enfants un printemps sans nuages. Ils sont déjà trop loin pour que rien n'y puisse rien changer. Les communistes, moi des hommes comme ça, je les fais chevaliers du monde de demain. Ils me tendent la main, moi des femmes comme ça, je les chante en collier leur tresse de mes mains, l'herbe sur le chemin. Il faudra bien qu'un jour, coude à coude avec eux, je chausse les souliers des communistes.
Mais avec le temps, ça s'est amenuisé. Il y avait moins de camarades, il y avait moins de monde. Ça se dispersait. C'était beaucoup plus difficile. La presse, on diffusait de moins en moins de journaux. Il y avait de moins en moins de volontaires pour aller au porte-à-porte, vendre des journaux, crier l'humanité. Je me rappelle, je le ferai pas maintenant, dans la rue à Bron, demander l'humanité, organe central du Parti communiste ou France Nouvelle. On était fous un peu. On était fous. Mais cette folie nous nourrissait. Cette folie nous aidait à suivre ce parcours politique qui était le nôtre. Et, pour moi, ça m'a apporté beaucoup. Il y avait une sorte de désinvolture dans cela. Il y avait un défi, et puis l'international, le communisme, c'était l'absolu, c'était oui ou non. Et on était lancé dans ce combat avec enthousiasme, sincérité et conviction. Bien sûr, c'était très juvénile. Il y avait beaucoup d'infantilisme dans cela. On l'a bien vu avec les années qui ont suivi.
Et quand vous dites ça a diminué, c'est à partir de quelle année ?
Oh, à partir de... Le plus que ça a diminué, c'est à partir de 1955, quand il y a eu les événements de Hongrie, quand il y a eu tout cela, quand le stalinisme a été découvert visage ouvert, et que ces choses ont été découvertes. Et la répression, le goulag, tout ça, ça n'existait pas, la libération. Personne n'en parlait, parce que l'Union soviétique, Staline, c'est lui qui avait battu Hitler, avec, enfin, il y avait tout un symbole autour de ce personnage. Et le stalinisme, l'apologie du stalinisme, a fait du mal, parce que ça a bloqué, en fait, le travail idéologique qui était le nôtre. C'était tout à fait au-delà des traditions de Marx et d'Engels, de tous ceux qui ont créé le socialisme idéologique. Logiquement. Et c'est à partir de ces années 1956-1957 que les difficultés sont intervenues et que nous-mêmes nous nous sommes interrogés parce que nous nous sommes posé la question, on s'est battu, on a risqué notre vie, on a été dans la résistance, on arrive à 1956, une décennie plus tard, on découvre ce que c'est le goulag, la répression, en 1936, les procès de Moscou, où Staline a fait fusiller les trois quarts de la direction du Parti communiste du temps de Lénine, alors que Lénine, c'est un personnage que je portais dans mon cœur. J'ai d'ailleurs 300 livres de Lénine sur Lénine. J'ai toujours gardé cette nostalgie du léninisme. Il m'avait beaucoup influencé parce que son frère avait été pendu, je crois, et lui, il avait dit « faut pas faire comme un ». Faut pas se lancer dans des actions mal préparées. La politique, c'est autre chose. La politique, c'est un combat qu'il faut mener avec des théories, avec des valeurs. Et ça, c'est le léninisme qui m'a pris ça. Moi, Marx, Engels, Lénine, ces trois noms qui sont liés intimement. Comme ensuite Maurice Thorez est venu associer et s'associer à cela. Parce que Maurice Thorez a décelé... quand il disait que les bouches s'ouvrent à un moment dans le parti, ça veut dire que les bouches ne s'ouvraient pas. Quand la résistance est venue, que l'international communiste l'a contraint à quitter l'armée en 1940, il ne voulait pas Maurice Thorez. Mais il y avait des règles, il fallait obtempérer. Mais il est parti en faisant la critique, en disant c'est pas possible, parce que on va... Si, il faut y aller, parce que de toute façon tu seras arrêté, c'est à Moscou. À Moscou, tout se décidait à Moscou. C'était la capitale de l'internationalisme prolétarien. Et c'est comme ça que Maurice Thorez est parti, contre sa propre volonté. Et quand on fait l'histoire et tout, nous, on a des moments difficiles, mais là, on se rend compte, ces grands personnages, les temps difficiles qui ont dû être les leurs. D'ailleurs, ils ne s'y sont pas trompés. Ils n'ont pas pu s'en prendre à Maurice Thorez. Ils ont fusillé son frère à sa place. Ils ont fusillé son secrétaire particulier, tout l'entourage de Maurice Thorez a été fusillé, a été décapité. Mais c'est vrai que la place de Maurice Thorez aurait été mieux chez nous, ici, comme il l'aurait souhaité, que là-bas, en Union soviétique. Ça aurait été mieux ressenti par la population française. En 1948, j'étais au comité fédéral du Parti communiste, et c'était donc presque 4 ans après la libération. Et quand j'étais à Bron, déjà, on m'avait mis à Lyon, à la fédération du parti, responsable des problèmes paysans, parce que comme je sortais d'une famille paysanne, et j'ai eu la faveur d'être un intime de Montagnier, c'était les députés du Beaujolais, Laplace, des paysans de souche, et moi qui repartais dans ces... Ouais, je retrouvais mes origines, mes racines, j'étais heureux, je racontais des fois des conneries, une fois à Beaujeu, peut-être, bon, c'était pas à Beaujeu, une ville du Beaujolais, peut-être bien à Beaujolais. On avait l'occasion, l'habitude de faire les réunions dans les caves. On en est dans les caves, là, dans les campagnes électorales. Je menais une campagne électorale pour Montagné, à ce moment-là, qui était député sortant. Et alors, dans cette cave, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pu raconter, que leur vin était d'une qualité, mais que ça valait pas mon bacot de chez moi. Alors, quand on sait le bacot, ce que ça représente, et ce bacot, je l'appréciais parce que c'était le premier vin que nous avions chez nous. C'était un vin, un grain, c'était précoce, la vigne produisait du raisin précoce, et alors on avait ce bacot au moment même où on vendangeait, on faisait les... Et moi, ce souvenir m'était resté. Alors je vais parler de mon bacot. Montagné m'a foutu une dérouille en sortant, il m'a dit « qu'est-ce que tu vas parler de ton bacot ici dans le Vosgien ? Tu m'as fait perdre 100 bois !» Alors donc j'ai été, je m'occupais de ces problèmes paysans, et en 1948, c'est en vertu de cela, de mon travail à Bron, que j'ai été élu au comité fédéral. C'est la première fois que j'ai été élu au comité fédéral. Il y avait une conférence fédérale, et je me rappelle toujours, toujours, j'avais fait un discours sur les problèmes paysans. Et j'y avais mis tout mon cœur, parce que je connaissais. Je sortais de là, c'était un peu mes tripes, parce que j'ai quand même été très... très retardataire pour me conformer aux coutumes de la ville et tout. Je restais un paysan dans ma tête. Et quand j'ai eu fini mon discours, il y avait Maurice Torres qui représentait la direction du parti, le secrétaire. Et Maurice Torres s'est levé de la tribune et il est venu pour me féliciter et me dire « Bravo, bravo, Roger Pestouri, tu as fait du bon, tu exprimes avec cœur ce que sont nos valeurs et ce pourquoi nous... » Eh bien ça, ça m'a marqué. Parce que devant toute la conférence fédérale, un Maurice Torres qui se sort de sa place et qui vient, après mon discours, pour me serrer la main et me féliciter, ça a été un événement pour moi. Et c'est comme ça que j'ai été élu au comité fédéral. Alors là, il y a eu tout un tas de débats. C'était place des Jacobins, là-bas. Je m'en rappellerai toujours, ce travail au comité fédéral. À ce moment-là, j'avais mon activité professionnelle. Le comité fédéral, ça durait le samedi et le dimanche. On partait le samedi toute la journée. Le dimanche, ça finissait très tard. Le samedi, ça finissait à 2h du matin, des fois. C'était quelque chose de très difficile dans la vie de couple que je menais. C'est des souvenirs qui me restent, qui sont des fois très, très, très durs pour moi. Mais c'était comme ça, ça fonctionnait comme ça. Alors, je suis resté là 23 ans au comité fédéral. 23 ans, et il y a eu des débats. Le plus grand débat que je me rappelle, et c'est là... J'ai toujours été, c'était pas d'être provocateur dans mon esprit, c'est de mettre toujours ma parole en conformité avec les valeurs que je défendais. Et je me souviens de ce débat, le personnage, le secrétaire que j'ai cité, je le reciterai pas maintenant, parce que je lui garde ma confiance et ma sympathie. Il n'est plus là maintenant, mais je le salue, parce que c'était un grand camarade et un grand résistant. J'ai dit, une conférence fédérale, on était sur 50 là-dedans, et tout ça, place des Jacobins, puis moi, ma voix qui porte loin, les fenêtres ouvertes, elles devaient s'entendre dehors. Alors, j'ai dit, il n'y a pas que le grand Staline qui est dangereux, il y a les petits Stalines, et ces petits Stalines qui sont même ici, ils sont plus dangereux que le grand Staline. C'était fou de raconter ça, c'était fou sous cette forme-là, à tel point que quand on a levé la séance, c'était 1h du matin, ça a créé un froid terrible, et même mes camarades, entre eux, ils devaient dire, en tout cas, c'était pas le moment de m'approcher, il y a un seul camarade, c'est Chadbeck, qui est resté, pour rester avec moi, pour me serrer la main. Tout le monde est parti, vous voyez ce que c'est. Même un parti aussi large que le monde, aussi humain, quand il y a des problèmes de fond, comment il y a des ruptures et comment il y a des aliénations de ce qui est la raison même de ce que nous sommes. Ça m'avait beaucoup marqué. Je me suis trouvé tout seul avec Chadbeck. S'il n'avait pas été là, je sortais tout seul là-dedans. Pourquoi ? Parce que j'avais été à contre-courant. Et puis c'était pas très très habile de ma part. Mais J'ai cette nature de caractère où il faut que je défonce les clous, comme on dit, où je dise le fond de ma pensée. Parce que c'est pas tellement impromptu, c'est pas tellement irréfléchi, c'est parce que au fond de ma pensée, au fond des valeurs, si je dis pas ces choses-là, il y a une perversion de moi-même. Et il faut que ma vérité, je dis bien ma vérité, parce que ma vérité, c'est pas la vérité, il y a ce qui est vérité et erreur, mais ma vérité telle que je la conçois, il faut qu'elle trouve son espace dans les mots que je prononce. Et ça m'a beaucoup marqué. De la commission paysanne, on m'a émis à la commission des intellectuels, j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est pareil, là, j'ai fait une petite révolution, parce que j'avais une commission où j'ai élargi. Quand j'ai créé la commission des arts plastiques, il y avait des gens comme tous ces grands peintres, Combes et Descombes, tout ça, qui venaient. Ils n'étaient pas plus communistes que le voisin à côté, mais c'était dans l'engouement, j'étais là, ils sentaient que j'étais avec eux, avec les peintres et tout. Et ça fonctionnait comme ça. Et puis je faisais des journaux pour chaque catégorie. J'avais départagé mes commissions. Il y avait la commission des arts plastiques, la commission des enseignants, la commission des instituts, parce qu'à ce moment-là, les profs et les enseignants, c'était le conflit. J'avais voulu faire une seule et même commission, ça ne s'entendait pas. Il a fallu que je départage. Et j'avais Jeannette Colombel à ce moment-là qui était à la commission des enseignants et qui, elle, faisait pas de cadeaux. Hein. C'était une fille formidable parce que des fois après le comité fédéral, on discutait dans les rues de Lyon. Une fois à 2h du matin, on discutait encore. Il a fallu que je prenne un taxi pour revenir. Mais ça, c'était Jeannette Colombel. Vous voyez, il y avait quelque chose dans le Parti communiste de très ouvert et de très resserré, vous voyez, et de très structuré avec ce dogmatisme, ce centralisme démocratique qui a beaucoup nuit à ce qu'on appelle l'expression de la démocratie. Ça veut dire qu'il y avait la parole officielle, mais quand il fallait mordre sur cette parole officielle, c'était très difficile. C'était un combat très difficile et ça n'a pas toujours été facile. Personnellement, ça m'a pas toujours été facile, mais c'était ma personne même qui avait besoin de cet exutoire pour arriver à exprimer ce que j'étais, le communisme qui était le mien, ma façon d'être communiste.
Que vous étiez plus un homme qui avait envie de faire vivre ses convictions que d'arriver au sommet de l'appareil, quoi.
Ah oui, absolument. J'ai jamais recherché. D'ailleurs, j'ai jamais... À la Libération, là, je suis resté 2-3 mois aux jeunesses communistes, là. Et puis, quand j'ai été démobilisé, on m'avait mis permanent à l'UJRF, là. J'y suis resté 3 mois, je supportais pas le permanent. J'ai jamais, je respecte les camarades permanents. Il y a des camarades formidables qui étaient la majorité à ce moment-là. Mais, personnellement, il y avait deux choses. Il y avait ma famille, mon activité professionnelle et les valeurs et mon idéal pour lesquels et mon parti. Si j'avais été permanent là-dedans, je me serais senti fonctionnaire et obligé d'eux, comme on l'est dans une activité professionnelle. Alors, j'ai pu rester que 2-3 mois. On est venu me chercher pour entrer à la sécurité sociale. Ça a été ma libération à ce moment-là. Vous voyez? J'avais un caractère très particulier et très difficile. C'était pas pour supporter ça à ce moment-là. Vous savez, il y avait toujours le suspense, le point d'interrogation. Et c'était souvent assez difficile. Enfin, voilà un peu comment les choses se sont passées. Et puis après, j'ai été nommé au Bureau fédéral. Au Bureau fédéral en 1956. En 1956. Et j'ai été nommé au Bureau fédéral dans des conditions un peu particulières. Parce que je travaillais, j'avais une activité professionnelle à ce moment-là, j'étais directeur de la sécurité sociale à Bron, et je vais à la conférence fédérale où il y avait Jacques Duclos. il y avait Jacques Duclos. Et il y avait un grand conflit ouvert à ce moment-là. C'était après les événements de Hongrie, tout ça. Il y avait des courants différents dans le parti. Et Duclos était là, il a essayé de faire accommoder des morceaux. Et il n'y a pas réussi puisqu'on a fait une autre conférence après. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il ne faut pas chercher les poux dans la crinière du lion, quelque chose comme ça, comme propos vrai. Et c'est là que j'ai été nommé au bureau fédéral. J'ai été nommé, c'était prévu à l'avance, mais j'ai été nommé dans des circonstances qui m'ont un peu gêné, parce que c'était dans ce courant conflictuel, et on ne savait pas trop, moi, rentrer là-dedans, si j'avais été, entre guillemets, récupéré, ou si j'étais toujours dans le courant traditionnel un peu contestataire. Ce que m'ont reproché les camarades à la fin de la conférence, les camarades contestataires. Moi, je n'avais pas été au débat où les propos avaient été très, très, très virulents. Je tombe là en ignorant tout cela. Et ça m'a quand même déçu, parce qu'il y avait des camarades, il y avait Moissonnier, il y avait toute une... Il y avait Drevon, qui était au parti à ce moment. Il y avait toute une équipe de camarades que ils sont pas restés au parti. Je pense qu'ils... Moissonnier est resté au parti, mais ils étaient plus ou moins contestataires. Et s'il n'y avait pas eu encore... Ce dogmatisme dirigiste, ses camarades n'auraient pas eu ces problèmes avec eux. Et j'étais quand même gêné de mon entrée au bureau fédéral dans ces conditions. Et j'avais un malaise, et je suis resté 9 ans au bureau fédéral. Et là, ça s'est beaucoup amélioré, parce que, étant au bureau fédéral, j'avais une autorité, un poids beaucoup plus responsable, des moyens beaucoup plus grands. Et je dirigeais la commission des intellectuels à ce moment-là, et en dirigeant la commission des intellectuels, j'ai pu déborder de cette responsabilité en créant des structures comme l'Université Nouvelle de Lyon, dont je parlerai dans une autre émission. Mais voilà un peu mon travail à la Fédération. Et j'ai quitté la Fédération, le bureau fédéral, en 1971, lorsque nous avons constituer la municipalité d'Union de la Gauche-Abron, où je me trouvais premier adjoint, et je ne pouvais plus continuer là-bas. Mais je garde de bons souvenirs de ces camarades qui avaient leur caractère, mais qu'il y avait un blocage quelque part, des fois, pour aller au fond des choses. Et moi, j'allais au fond des choses. Et je ne le faisais pas par esprit de pas être comme les autres, je le faisais par esprit de conscience, parce que je le ressentais. C'était moi-même, c'était la plénitude de moi-même. Et je pensais qu'en révélant la plénitude de moi-même, ça pouvait aider à notre combat, parce qu'au bout du fil, le communisme, c'était quand même, là, ça devait déboucher à la démocratie. Si ça débouche sur la dictature, c'est la marche à l'envers, puisque Marx a dit lui-même qu'à un moment, à une époque, il n'y aurait plus d'État. Donc, s'il n'y a plus d'État, il n'y a plus de répression, il n'y a plus rien. C'est la gestion des choses à la place de l'administration. Et mon marxisme, moi, j'avais lu Le Capital, j'avais lu Engels, j'avais lu Lénine, d'ailleurs, et c'est ces valeurs que j'essayais de transposer dans ces moments très difficiles où il y avait des positions qui conduisaient à des exclusions, qui conduisaient à un esprit rétréci, un esprit qui a fait beaucoup, beaucoup de mal au Parti communiste français, beaucoup, beaucoup de mal.
C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerise et grenade aux 100 fleurs du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme aubade, les lèvres s'épanouissent. camarade, camarade. C'est un nom terrible, camarade. C'est un nom terrible à dire quand le temps d'une mascarade, il ne fait plus que frémir. Que venez-vous faire, camarade? Que venez-vous faire ici? Ce fut à 5 heures dans Prague que le mois d'août s'obscurcit. Camarade, camarade.
Vous avez mis à ce poste au comité fédéral parce que justement vous n'étiez pas un homme sectaire ou trop rigide sur les questions qui divisaient, et que ouais, finalement vous faisiez un peu consensus pour faire fonctionner la machine.
Je pense qu'il y a eu beaucoup de ça. Je pense parce que c'était ma nature, parce que j'ai besoin de ma réflexion, mais j'ai besoin surtout des autres, et j'ai besoin de la vérité des autres pour définir moi-même ma propre vérité. Ça veut dire que je suis un peu dégagé du dogmatisme traditionnel qui existait. Et puis, j'ai toujours été contre toute forme d'extrémisme, vous voyez. Et le communisme de ce moment-là, dans sa pratique, ça tournait à une sorte d'intégrisme. On était communiste ou on était adversaire. C'était blanc ou noir. Et ça, c'était un grand combat humaniste à mener. Je pense que j'ai été dans le Parti communiste, l'homme de ce parcours, pour un humanisme qui soit à la mesure des théories de Marx, d'Engels, et surtout ce que Lénine a expliqué, qui est décédé en 1924, mais si Lénine n'était pas décédé en 1924, la situation politique aurait évolué différemment en Union soviétique. D'ailleurs, Lénine était en conflit avec Staline, parce que une fois Staline avait pratiquement insulté en réunion sa femme, qui était la Krupskaya, et Lénine avait mis en garde ce camarade n'est pas en mesure d'assurer la direction du parti, parce qu'il manque de valeurs humaines. Voilà ce qu'avait dit Lénine. Et voilà la suite, comment après on cristallise et comment l'histoire se déroule. Voilà un petit peu ce que tout ce parcours au Parti communiste, mais je l'avais mis en conclusion, ça m'a permis deux choses. Ça m'a permis d'une part de découvrir la classe ouvrière, mais qui n'était pas de cette classe, qui appartenait aux classes paysannes. J'ai découvert la générosité de la classe ouvrière, la combativité de la classe ouvrière, le militantisme de la classe ouvrière. J'ai découvert cette classe ouvrière après dans la résistance, puisque c'est Mauriac qui a dit « Seule la classe ouvrière est restée fidèle à la France profanée ». Et c'est vrai que ce regard que j'ai sur ses camarades, à 90% venus de la classe ouvrière, qui ont été conduits au poteau d'exécution, à la guillotine, terriblement humains, leurs dernières lettres le prouvent aujourd'hui, qui sont publiées, eh bien, ça, pour moi, c'est quelque chose que c'est une découverte pour moi. Je dois tout à la classe ouvrière. Ma formation, mon militantisme, ma manière de juger, ma simplicité peut-être, ma modestie. Et même quand j'étais directeur de la sécurité sociale, j'avais un peu cette envie de revenir en bas. Parce que quand on est les classes moyennes, et qu'on est un milieu qui n'est pas tout à fait ouvrier, les employés, c'est une classe différente que la classe ouvrière directement. Je me sentais un peu orphelin là-dedans. Et j'avais besoin de ce souffle. J'avais besoin d'aller me ressourcer auprès de mes camarades de la classe ouvrière. Ils m'ont beaucoup, beaucoup enrichi et beaucoup apporté. Et puis, je le disais tout à l'heure, je pense que Mon communisme à moi, ça a toujours été le combat pour l'humanisme. J'ai toujours parlé de l'humanisme parce que à travers moi, c'est le Jaurès. Je vois Jaurès. Et quand je relis Jaurès, il m'arrive souvent de lire son discours à la jeunesse de Jaurès. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai besoin d'aller chercher cette brochure. Je passe pas d'années sans relire ce discours à la jeunesse de Jean Jaurès. Quel humanisme, quelle passion, quel cœur, quelle grandeur et quelle ouverture sur les autres, quelle générosité. Et c'est ça, le vrai communisme. Je pense que le communisme aujourd'hui tel que mon parti le préconise, je pense que ce sont des valeurs qui partent de là. Mais je terminerai en rappelant que, peut-être un peu provocateur cette fois, c'était pas la recherche des valeurs, mais je suis au vétéran du Parti communiste à ce moment, et une fois à la réunion des vétérans, il y avait la direction du parti, et j'ai dit, bon, ben, moi, vous voyez, dans ma vision des choses, il y a, parmi tous ceux qui ont marqué le XXe siècle, il y a trois personnages qui marqueront le XXe siècle, dont on parle plus aujourd'hui ou très peu, et dont on parlera beaucoup dans des décennies, c'est Maurice Thorez, c'est Louis Aragon et c'est Picasso. Je dis non pas parce qu'ils ont fait intellectuellement, mais c'est des personnages qui ont adhéré au parti, qui sont restés au parti jusqu'au bout, et qui ont connu tous les écueils, toutes les difficultés qu'on a eues, et qui sont restés fidèles à des valeurs. Et ces valeurs-là, ce sont les valeurs du XXe siècle qui trouveront leur récompense, leur apothéose au XXIe siècle. Et alors j'ai fait sourire les camarades, ils ont dit « Roger, il ne change pas de son histoire ». Mais je le pense, Maurice Thorez m'a beaucoup, beaucoup marqué. C'était un orateur fabuleux. Quand il est venu à Brive, j'en ai parlé, extraordinaire ce qu'il a pu me marquer. Il est venu à Lyon, la même chose. Et quand il parlait, c'était un emblème, il répercutait le fond de nos pensées, dans nos ressentiments les plus profonds. Il y avait cette humanité, il était porteur de cette humanité extraordinaire.
Nous luttons pour que les ouvriers ne reçoivent plus des salaires de famine, pour que tous les chômeurs obtiennent du travail et du pain, pour que les petits fonctionnaires et les retraités, les anciens combattants et les victimes de la guerre, les vieillards et les incurables cessent d'être frappés par les décrets-lois qui ont réduit les traitements, pensions et allocations. Nous luttons pour que les paysans, les artisans et les boutiquiers échappent à la ruine et à la faillite et pour que l'État leur vienne en aide. Nous luttons pour que les travailleurs et leurs ménagères se procurent à meilleur prix les denrées de première nécessité, pour que les consommateurs, les petits producteurs et les boutiquiers unis fassent rendre gorge aux spéculateurs, aux accapareurs, aux gros intermédiaires, aux capitalistes responsables de la vie chère. Nous luttons pour faire payer les riches et les parasites.
Et c'est un personnage dont le parti parle trop peu. À ma connaissance, il y a eu le 100e anniversaire de la naissance de Maurice Thorez. Personne n'en a parlé dans l'humanité. Il y a eu un livre qui est paru, mais il émane pas d'un communiste. Mais un jour viendra où on situera le parcours de Maurice Thorez, et je pense qu'il a marqué ce siècle, ce 20e siècle, et il a marqué l'humanisme pour lequel nous luttons dans ce 21e siècle. Voilà ce que je voulais souligner pour répercuter un peu mes passions, ma fidélité et mon attachement à ce parti communiste qui a eu des écueils, qui a eu des moments difficiles, qui a eu des personnages pas recommandables des fois, et dont on s'est débarrassé d'ailleurs en temps voulu, je pense à Doriot et à d'autres, mais ce parti qui a été quand même le parti de la tradition républicaine de ce pays, ce parti qui a été dans le prolongement de la révolution de 1789, ce parti qui a été la commune héritier de la commune de Paris tout en émettant des critiques sur la manière où les choses se sont passées avant et dans le prolongement de Jean Jaurès. Le communisme d'aujourd'hui, je pense que ce sont ces valeurs-là qui se cristallisent, qui s'exprime, et c'est pourquoi je suis encore militant du Parti communiste français. Merci.
Roger Pastori, je vous remercie et nous nous retrouverons prochainement pour un quatrième entretien.
Ils sont de notre temps.
Ainsi se termine cette troisième émission d'une série de 12 consacrée à Roger Pastori. Celle-ci sur le thème « Militant au PCF depuis 1937 ». La quatrième sur le thème « La résistance pendant la guerre de 40-44 » sera diffusée le 12 février 2007. Au fil de cette émission, vous avez pu entendre successivement « La valse de l'Huma » interprétée par Éric Amado, paroles Pierre Gamara, musique Jean Vinaire. Et puis c'était « La complainte des CDH » par Marcel Vigneron, paroles Raymond Lavigne, musique Jean Vinaire. Et puis c'est Pia Colombo qui interprétait « Les communistes » de Maurice Fanon, la chanson que vous écoutez à nouveau en fond sonore, et Jean Ferrat qui interprétait sa composition « Camarade ». Enfin, vous avez pu entendre un extrait d'un discours de Maurice Thorez en 1936. Bonsoir.
Sur les murs de la peur, marchant le poing levé, sous les yeux endurciés des marchands d'ouvriers, les communistes,
quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant, clair. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant, clair. Mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en main mètre de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps, aucune chance qu'on les vise, mais on les claque. Thank you.
l'humain sur tous les chemins, l'humain dans toutes les mains. Bonjour, bonsoir, bon matin. Il y a le blé et le vin, il y a la laine et le lin, et l'humain dans toutes les mains, sur tous les chemins. L'humain, un journal dans un matin de France, à Marseille, à Brest ou à Nancy, un journal sous les toits de Paris, une fille, un gars, une romance. L'humain sur tous les chemins, l'humain dans toutes les mains. Bonjour, bonsoir, bon matin. Il y a le blé et le vin, il y a la laine et le lin, et l'humain dans toutes les mains, sur tous les chemins. L'humain, un vélo dans le jour qui va naître, une belle au seuil de sa maison, un salut au fil d'une chanson, du soleil au carreau des fenêtres. L'humain sur tous les chemins, l'humain dans toutes les mains. Bonjour, bonsoir, bon matin. Il y a le blé et le vin, il y a la laine et le lin, et l'humain dans toutes les mains, sur tous les chemins. L'humain, des oiseaux près d'une source claire, des enfants qui chantent le ciel bleu, et des nids pour tous les amoureux. Le bonheur n'est pas une chimère. L'humain sur tous les chemins, l'humain dans toutes les mains. Bonjour, bonsoir, bon matin. Il y a le blé et le vin, il y a la laine et le lin, et l'humain dans toutes les mains, sur tous les chemins.
Ils avaient tous pris une tâche, celle de défendre l'humanité. Et de Montmartre à Barbès, ils s'en allaient cœur léger. Bonnes gens, la voix de Jaurès vous dit, lisez. Bonnes gens, la voix de Jaurès vous dit, lisez l'humanité. L'histoire que je veux vous dire, dire depuis 30 ans déjà. Et ce n'est pas pour vous séduire que je parle de ces gens-là. Un jour d'avril, les capitalistes ont décidé, ces exploiteurs, de liquider. C'est vraiment triste, le quotidien des travailleurs. Alors de toutes les cités, 10 000 voix ont crié, bonnes gens pour la vérité, lisez, lisez l'humanité, bonnes gens pour la vérité. Lisez, lisez l'humanité. L'histoire que je veux vous dire a commencé ce beau jour-là. Jamais détruire le drapeau du prolétariat. À cent reprises, ils essayèrent de bâillonner notre journal. Ce fut Munich et puis la guerre de l'invasion fut le signal. De chacun des pavés, un cri puissant est monté. Bonnes gens, pour la vérité, lisez, lisez l'humanité. Bonnes gens, pour la vérité, lisez, lisez l'humanité. L'histoire que je veux vous dire a commencé voici 5 ans. L'histoire que je veux vous dire, c'est la guerre où sont nos enfants. Elle se passe en terre étrangère, en territoire maghrébien. Sont tués tant de nos frères, tant de Français, tant d'Algériens. Mais dans les rues des cités, les hommes crient, écoutez, bonnes gens, vous voulez la paix. Vous voulez la paix, lisez, lisez l'humanité. L'histoire que je veux vous dire a commencé le 13 mai. Jamais de maudire les fascistes et leurs laquais. Unissons-nous, travailleurs de France. Unissons-nous pour le combat. Faisons renaître de leurs cendres la République et tous nos droits. Printemps, hiver, comme été, bonnes gens pour la liberté, chantez, chantez l'humanité, bonnes gens pour la liberté, chantez, chantez l'humanité.